Bienvenue à tous sur France Culture, il est midi et demi. Le journal, Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Patrick Balkany restera en prison ce matin. La cour d'appel de Paris a rejeté la demande de remise en liberté du maire de Levallois-Perret, condamné à 5 ans de prison pour blanchiment aggravé.
4 ans après les attentats les plus meurtriers commis en France, ministres et officiels commémorent ce mercredi les attaques djihadistes du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis.
Et ce, dans un contexte de menaces toujours élevées. Invité de la rédaction dans une dizaine de minutes, Jean-Charles Brizard, président du centre d'analyse du terrorisme, spécialisé dans la question du financement des organisations terroriste.
Toujours dans votre journal à l'étranger, nous irons tout d'abord à Hong Kong, théâtre depuis le début de la semaine de scènes d'une rare violence.
Oui, ce matin, les manifestants pro-démocratie ont encore intensifié leurs actions tous azimuts pour paralyser au maximum l'ex-colonie britannique. Nous nous rendrons également au Liban au lendemain de la mort par balle d'un protestataire et alors qu'une grande partie du pays réclame inlassablement le départ de la classe dirigeante. Enfin, nous reviendrons sur la mort ce matin à l'âge de 83 ans de Raymond Poulidor, lequel était monté à 8 reprises sur le podium du Tour de France, sans toutefois jamais accéder à la plus haute marche. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Et si l'Afrique montrait le chemin, c'était le thème d'une des tables rondes ouvertes lors du Forum de Paris sur la paix, avec notre premier invité, Rémi Rioux, qui discutait avec l'historien Achille Mbembe, et avec nous également Abdourahman Waberi. Il vient de co-signer avec Alain Mabankou un dictionnaire enjoué des cultures africaines. Ensemble, nous parlerons donc culture et paix, et du chemin que l'Afrique pourrait ouvrir sur ces sujets.
Merci et à tout à l'heure. Incarcéré depuis 2 mois, jour pour jour, à la prison de la Santé, Patrick Balkany, dont la cour d'appel de Paris avait examiné la semaine dernière la deuxième demande de remise en liberté, n'avait pas souhaité être présent ce matin au moment du délibéré. Plus exactement, l'élu de 71 ans avait refusé pour l'occasion d'être extrait de sa cellule, et c'est ainsi qu'il n'aura donc pas eu besoin d'y être reconduit, puisque la justice a finalement rejeté ce matin sa demande de libération dans le volet blanchiment des très nombreuses affaires liées au baron des Hauts-de-Seine. Florence Turme, bonjour.
Bonjour.
Alors le maire Les Républicains de Levallois-Perret avait notamment invoqué son état de santé, celui d'un septuagénaire souffrant de plusieurs pathologies, pour justifier sa demande de libération. Sauf que les magistrats d'appel, qui avaient jugé celle-ci recevable sur la forme, l'ont en revanche, Florence, rejetée sur le fond.
C'est effectivement la seule indication livrée par la cour ce matin. Le maintien en détention de Patrick Balkany est ordonné, a simplement indiqué le président, sans détailler les motivations de cet arrêt, conforme aux réquisitions du parquet qui avait mis en avant un risque de fuite possible, probable et prévisible. La même cour d'appel avait pourtant accédé à la première demande de mise en liberté du maire de Levallois dans le volet fraude fiscale, avec toutefois un contrôle judiciaire très strict et sous réserve du paiement préalable d'une caution de 500 000 euros. Dans la partie blanchiment de fraude fiscale, où d'autres proches des époux Balkany étaient également impliqués, les magistrats ont eu visiblement une autre lecture du procès. Antoine V, avocat de Patrick Balkany.
Ce que je constate, c'est que la Cour a estimé qu'il y aurait un risque de pression sur des témoins, en l'occurrence le fils de M. Balkany et 2 autres témoins qui ont fait l'objet d'une relaxe définitive dans le volet corruption. Et ce risque-là justifierait qu'on maintienne M. Balkany en détention. Donc évidemment, on n'est pas d'accord avec ces analyses. C'est celle de la Cour. Elle paraît aussi contradictoire avec l'autre décision. Mais on est dans une position difficile, puisque les juges qui ont rendu cette décision sont aussi ceux qui vont juger M. Balkany sur le fond.
De toute façon, Patrick Balkany ne pouvait pas a priori sortir puisqu'il n'avait pas réuni le cautionnement.
Non, mais il y a quand même quelque chose de très différent entre quelqu'un qu'on remet en liberté sous caution et quelqu'un qu'on maintient en détention. Donc il avait l'espoir avec sa famille et ses soutiens de réunir la somme et de pouvoir recouvrir la liberté. Et puis maintenant, en l'état de cette décision, ce n'est plus possible.
La défense de Patrick Balkany, qui vient de déposer une nouvelle demande de mise en liberté et par ailleurs une demande de modification du contrôle judiciaire, elle vise précisément ce cautionnement de 500 000 euros, somme que Patrick Balkany n'a pas réussi à réunir malgré la cagnotte lancée par ses soutiens à Levallois. Lors de l'audience, il avait expliqué qu'il n'avait plus un rond et qu'il restait d'être obligé de rester au trou.
Merci Florence Sturm. C'est aujourd'hui que la Cour d'appel de Paris doit examiner la demande de l'Espagne d'extrader l'un des plus influents chefs de l'organisation séparatiste basque ETA, Josu Ternera, lequel avait été arrêté au printemps dernier à Sallanches, en Savoie, alors qu'il se rendait à l'hôpital l'hôpital pour se faire opérer. Et ce, après plus de 16 années de cavale, l'homme tour à tour inspirateur d'une stratégie d'attentat meurtrier, puis promoteur de négociations de paix avec l'État espagnol, est aujourd'hui sous le coup d'un mandat d'arrêt européen pour des crimes de lèse-humanité commis entre octobre 2004 et décembre 2007. Parce que la honte commence à changer de camp, 250 personnalités essentiellement de gauche, issues tant de la politique que du secteur associatif, mais aussi de la culture, viennent de publier une tribune dénonçant les violences sexistes et sexuelles au sein de certains conseils municipaux. Quelques semaines après le lancement du hashtag entendu à la mairie sur le réseau social Twitter, et à 4 mois donc des élections municipales, eh bien, ce texte invite au fond les victimes à alerter les partis politiques afin que le cas échéant et après enquête, ils n'accordent pas leur investiture à tel ou tel candidat incriminé. Les précisions de Rosalie Lafarge.
Ils ne veulent pas voir caracoler en tête de liste un harceleur, voire un violeur. Les signataires de cette tribune, des femmes et des hommes, demandent que les choses changent. Aux côtés des signatures de Laurence Rossignol pour les socialistes ou Manon Aubry pour les insoumis, on trouve celle de Yannick Jadot chez les écologistes et de Sandra Regol, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts.
Les milieux politiques, même à l'échelon local, sont loin d'être exempts de ces prédateurs et au contraire, on cumule beaucoup. Les femmes, souvent, se pensent être les seules victimes, culpabilisent, n'osent pas parler ou ont peur de parler parce qu'elles savent que eh bien, la solidarité se fera plus du côté d'un édile ou d'un élu de longue date que de leur côté. C'est ça qui doit changer.
À l'approche des municipales, cette tribune invite effectivement les victimes à témoigner en écrivant directement aux partis politiques pour qu'ils écartent des listes les candidats jugés sexistes ou violents.
Oui, il y a une présomption d'innocence. Mais ce qu'il y a surtout dans une société qui refuse d'entendre la parole des femmes qui souffrent, c'est un devoir d'écouter et d'accepter que la femme a vécu des choses graves. Et quand on est dans un collectif, quand on a peut-être vu des gestes, quand on a peut-être entendu des propos qui étaient limites, eh bien on a tous une part de responsabilité quand on n'a pas agi.
Les auteurs du texte mettent à disposition des victimes voulant témoigner une lettre type à compléter et les contacts de tous les chefs de parti et ils insistent, il est temps pour les formations politiques de prendre leurs responsabilités. Elles ne pourront pas dire qu'elles ne savaient pas.
Quand le gouvernement choisit de temporiser sur le travail de nuit, alors que l'exécutif envisageait initialement de modifier le dispositif dans un projet de loi présenté ce matin au Conseil des ministres, il a finalement décidé de se donner 6 mois supplémentaires de concertation pour éventuellement autoriser à terme l'ouverture des commerces alimentaires jusqu'à minuit. Et puis suite au vote, c'était la semaine dernière, de mesures sur la couverture santé des migrants, la députée du Nord, Jennifer de Temmerman a annoncé ce matin quitter le groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Dans l'hémicycle, celle qui s'est opposée en vain au vote de ces dispositions sur l'aide médicale d'État avait interpellé ses collègues en ces termes « Où est notre âme? Où allons-nous ?» Jennifer de Temmerman continue aujourd'hui de fustiger cette mesure de restriction sur l'AME qui, selon elle, conforte les discours d'extrême droite. C'était il y a 4 ans, jour pour jour, et encore aujourd'hui, chacun se souvient d'où il était et de ce qu'il faisait ce soir-là. C'était le 13 novembre 2015, aux terrasses de plusieurs bars et restaurants parisiens, mais aussi près du Stade de France et jusque dans la salle de concert du Bataclan, plusieurs attentats djihadistes simultanés allaient faire 131 morts et plus de 400 blessés. La France commémore donc aujourd'hui le souvenir de cette nuit d'effroi qui aura plongé le pays tout à la fois dans un état de sidération, en même temps qu'en état de guerre. Et pour en parler avec nous, invité aujourd'hui de la rédaction, Jean-Charles Brizard, président du Centre d'analyse du terrorisme spécialisé dans la question du financement des organisations terroristes. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Antoine Marette. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Une première question monsieur Brizard, 4 ans après ces attentats, la menace terroriste est visiblement en train d'entrer dans une nouvelle phase, non seulement en raison des évolutions dans la zone irako-syrienne, on aura l'occasion d'y revenir peut-être, mais pas seulement, il semble qu'aujourd'hui nous devons faire face à une menace endogène qui est plus difficile à détecter avec des individus qui n'ont plus forcément de lien direct avec Daesh. Est-ce que c'est cette menace-là qu'on craint le plus aujourd'hui ?
Oui, effectivement, nous réunissions la semaine dernière une conférence internationale à Paris avec les principaux acteurs européens et français de la lutte antiterroriste et tous faisaient le même constat. On est encore face à une menace exogène, menace extérieure, c'est celle qu'on a vécue le 13 novembre 2015, même si cette menace menace, elle est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre aujourd'hui pour des organisations comme l'État islamique, parce qu'effectivement cette organisation a été affaiblie par la coalition internationale, elle a notamment perdu son territoire. Pour autant, on le voit, et vous le disiez, l'instabilité dans le nord-est syrien, où sont détenus encore des milliers de djihadistes et membres de leur famille, fait craindre qu'un certain nombre d'entre eux puissent profiter de cette instabilité, de ce chaos localement, soit pour renforcer les capacités du groupe sur place, soit pour tenter d'entrer en Europe pour frapper nos pays. On a déjà un certain nombre de cas d'individus qui ont tenté, avec de faux papiers syriens, de le faire. Donc c'est une réalité, cette menace. Et puis on sait aussi que ce n'est plus une menace non plus, c'est une réalité. Le fait qu'un certain nombre d'individus djihadistes sont parvenus à s'échapper de certaines prisons, de certains camps dans lesquels ils sont détenus ou retenus. Donc voilà, cette menace exogène, il ne faut pas l'écarter. Elle est beaucoup moins probable effectivement qu'auparavant, mais elle reste néanmoins une réalité pour les services de renseignement. Et puis parallèlement, vous le disiez, la principale menace aujourd'hui, c'est la menace endogène, qui est le fait d'individus qui ont été inspirés par la propagande de ces groupes. Certains d'entre eux peuvent être également téléguidés par des individus demeurés à l'extérieur du pays. En tout état de cause, cette menace, elle est extrêmement diffuse, très locale, difficile à identifier et à neutraliser, a fortiori, pour les services de renseignement, parce qu'elle est, encore une fois, elle résulte d'un phénomène d'inspiration qui vient des réseaux sociaux, principalement d'Internet, sans réel lien avec des organisations terroristes, vous le disiez, ces liens étant aujourd'hui purement virtuels, quand parfois même ils sont totalement inexistants, si vous voulez. Donc pour les services, c'est une tâche, un défi extrêmement difficile à résoudre.
Question d'Antoine Maret.
Vous avez fait allusion à ce qui se passe actuellement dans la zone frontalière entre la Syrie et la Turquie. Vous êtes allé cet été dans cette zone-là. La détention de 2000 combattants dans la zone contrôlée par les Kurdes. Certains se sont échappés et ça n'est peut-être qu'un début. Ça, c'est très inquiétant.
Oui, c'est inquiétant. Il y a trois facteurs aujourd'hui qui font craindre une dispersion des djihadistes sur place. C'est la première, c'est la plus importante, c'est l'instabilité. J'en ai parlé à la faveur effectivement de l'offensive turque sur le nord-est syrien. On a vu se multiplier des tentatives de soulèvement ou d'évasion de ces camps. Certains camps ont même été purement et simplement été abandonnés par les geôliers. C'est le cas d'Aïn Issa où plusieurs centaines de femmes ont pu s'enfuir, dont des Françaises, dont certaines nous seront d'ailleurs renvoyées dans quelques jours par la Turquie qui les a capturées sur le sol syrien. Et puis par ailleurs, on a vu effectivement des évasions également de djihadistes hommes, pour le coup, anciens de l'État islamique. Les États-Unis estiment à plus d'une centaine le nombre de djihadistes hommes qui ont pu s'échapper de prison du nord-est syrien, donc sous le contrôle des Kurdes de Syrie, à la faveur encore une fois de l'offensive turque sur cette région. Donc il y a effectivement une vraie crainte par rapport au risque de dispersion. C'est le premier facteur, c'est l'instabilité. Le second, c'est l'incapacité, encore manifestée ces derniers jours, incapacité des autorités locales à garantir la sécurité de nos ressortissants, de nos djihadistes, dans des conditions optimales. J'ai pu me rendre dans une de ces prisons qui était faite de préfabriqués à la va-vite, et où les conditions de sécurité étaient vraiment proches de zéro. Et troisième élément, c'est la volonté de l'État islamique, exprimé par son chef avant qu'il ne meure au mois de septembre. Il a lancé un appel à ses partisans pour faire libérer les hommes et les femmes détenus au nord-est syrien. Et donc on a vu se multiplier aussi depuis un certain nombre de tentatives. Et il est évident que les femmes et les hommes dans cette région, même quand ils sont en prison ou dans des camps, bénéficient de soutien logistique, financier, extérieur à ces camps et à ces prisons. Et donc le risque provient également de cela.
Et donc pour vous, il faut rapatrier ces ressortissants français, pas simplement pour leurs droits, mais pour notre sécurité?
Moi je me place surtout et d'abord sur le plan sécuritaire. J'observe, comme je vous l'ai dit, un certain nombre de facteurs qui font qu'on a un risque certain aujourd'hui de dispersion de nos djihadistes. La dispersion, c'est quoi? C'est pas l'émiettement, l'éparpillement de la menace. C'est au contraire la certitude que la menace sera fragmentée, mais qu'elle continuera à exister. On a observé le même phénomène avec Al-Qaïda après le conflit afghan. Les combattants sont parvenus à se répartir un peu partout dans le monde entier, constituant cette galaxie terroriste, ce réseau terroriste qui est devenu progressivement Al-Qaïda et qui est en train de devenir l'État islamique. N'oublions pas qu'on parle de la situation situation dans la zone syro-irakienne. Il faut aussi mentionner les très nombreuses filiales de cette organisation dont il bénéficie dans le monde entier. Je parle de l'Afghanistan, de la Libye, du Sahel, du Sinaï, etc. Destination aussi privilégiée d'un certain nombre de djihadistes aujourd'hui. On estime qu'une cinquantaine de Français partis en Syrie et en Irak sont parvenus depuis à gagner des filiales à l'étranger, des filiales lointaines de cette organisation. Donc on ne résume pas l'État islamique et la menace de l'État islamique à la situation aujourd'hui en Syrie et en Irak.
Merci Jean-Charles Brizard, président, je le rappelle, du Centre d'analyse du terrorisme, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Antoine Marette. Alors nous évoquions à l'instant les questions que soulèvent effectivement les conséquences de l'intervention militaire turque en Syrie, en particulier la politique kurde d'Ankara et le sort des prisonniers djihadistes. Ce sera très certainement l'un des points majeurs de discussion aujourd'hui à l'occasion de la visite du président Erdogan à Washington. La conférence de presse commune des deux dirigeants est prévue en début d'après-midi, et quand bien même le locataire de la Maison Blanche s'enorgueillit de savoir négocier avec les dirigeants autoritaires, force est de constater que les tractations avec son homologue turc au cours des semaines écoulées ont été pour le moins chaotiques. Et puis cette visite coïncidera avec un autre événement de taille à Washington, les premières auditions publiques au Congrès dans l'enquête en vue d'une éventuelle destitution de Donald Trump, soupçonné d'abus de pouvoir, au camp la lutte féroce entre le président américain et les démocrates se déplace désormais sous l'œil des caméras. Enfin, Google pourrait récupérer les données médicales de 50 millions d'Américains, à en croire les révélations du Wall Street Journal. Le géant du numérique aurait lancé secrètement l'an passé un projet baptisé du doux nom de Rossignol, en accord avec un grand groupe hospitalier et surtout sans que les médecins et encore moins les patients ne soient au courant. Après une nouvelle nuit d'affrontements d'une rare violence entre forces de l'ordre et manifestants pro-démocratie, en particulier dans plusieurs universités transformées en véritable champ de bataille, Hong Kong vit depuis ce matin sa troisième journée de chaos. Des barricades faites de restes d'échafaudages en bambou et de débris en tout genre ont été dressées au milieu de la principale artère commerçante de la ville. Partout, les carrefours sont jonchés d'obstacles divers placés par les protestataires pour essayer de déborder la police. Mais surtout, des heurts sont toujours en cours dans plusieurs quartiers. Le mouvement appelle par ailleurs à de nouveaux rassemblements à partir de 21h ce soir dans 35 lieux différents. Les précisions sur place de notre correspondante Florence de Changy.
Alors que le jour tombe à Hong Kong, la ville s'apprête à une nouvelle nuit de violence. Après les heurts qui ont eu lieu à la prestigieuse université chinoise de Hong Kong dans les nouveaux territoires la nuit dernière, la police a estimé lors de sa conférence de presse quotidienne cet après-midi que l'université était devenue une usine d'armes. Pendant cette opération que les étudiants ont qualifiée de siège, la police a été la cible de 400 cocktails Molotov et également de flèches tirées à l'arc. De son côté, la police a indiqué avoir tiré 1567 cartouches de gaz lacrymogène ainsi que 1312 balles en caoutchouc au cours de la seule journée de mardi. Au total, plus de 4000 citoyens hongkongais ont été arrêtés depuis le début du mouvement et 142 personnes sur la seule journée d'hier. Aujourd'hui, à l'heure du déjeuner, des centaines d'employés de bureaux sont à nouveau descendus dans les rues de Central, le centre historique de la finance. Des manifestants radicaux ont brisé la devanture de la banque de communication, l'une des plus grandes banques chinoises. Les rues du quartier sont en train d'être quadrillées de longs bambous d'échafaudage, rendant la circulation impossible. Alors que la situation s'aggrave sur plusieurs fronts, le Jockey Club a annulé les courses hippiques de ce soir et le gouvernement a annoncé la fermeture des écoles jeudi. L'obstination du gouvernement à ne gérer cette crise que par la répression, sans proposer aucune solution politique, pousse les manifestants au désespoir et incite les plus radicaux à se déchaîner.
L'explosion s'est produite en pleine heure de pointe ce matin à Kaboul, non loin du ministère de l'Intérieur. L'attaque à la voiture piégée a fait au moins 7 morts, dont un écolier âgé de 13 ans et 10 blessés. Pour l'heure, cet attentat n'a toujours pas été revendiqué. En revanche, il intervient au lendemain de l'annonce par le président afghan de la libération de 3 prisonniers talibans de haut rang dans le cadre d'un échange avec 2 otages étrangers retenus par les insurgés depuis 2016. Un geste qui pourrait, quoi qu'il en soit, avoir d'importantes répercussions sur le processus de paix. Le président du Kurdistan irakien est à Bagdad aujourd'hui pour s'entretenir avec plusieurs hauts responsables, et ce avant le début d'une session parlementaire spéciale censée discuter des manifestations anti-gouvernementales et des violences sanglantes qui secouent le pays depuis plus d'un mois. Au Liban, là-bas aussi, la contestation sociale se poursuit. 28e jour de mobilisation ce mercredi. Alors, il y a deux semaines, les Libanais qui dénoncent une classe politique corrompue avaient obtenu la démission du Premier ministre Saad Hariri, sauf que depuis, aucun nouveau gouvernement n'a encore été nommé. Et ce n'est certainement pas l'intervention hier soir du président Michel Aoun à la télévision qui aura permis de calmer le jeu, bien au contraire, puisque les mots du chef de l'État ont même semblé relancer le mouvement de colère au pays du Cèdre. Les explications de notre correspondant sur place, Aurélien Colli.
Le Liban sous tension, titre ce matin le grand journal francophone du pays qui estime que le président Michel Aoun a remis le feu aux poudres avec une intervention publique hier soir. Nous avons entendu vos revendications, mais ne détruisez pas le pays et cessez d'assiéger les institutions publiques, a lancé le chef de l'État à l'attention des manifestants. Des Libanais certes un peu moins nombreux dans la rue ces derniers jours, mais qui réclament toujours le départ de la classe politique héritée de la guerre civile, considérée comme corrompue et inefficace. Des Libanais qui attendent aussi depuis deux semaines la nomination d'un nouveau gouvernement constitué exclusivement d'experts et sans couleur politique partisane. S'ils estiment qu'il n'y a pas de personne intègre ici, qu'ils émigrent, a aussi déclaré hier le président Aoun, provoquant la colère de nombreux Libanais qui avaient abandonné la rue ces derniers jours. Son interview n'était pas terminée, que des barrages se reformaient à travers le pays, des Libanais en ébullition qui ont coupé les grands axes routiers et des carrefours stratégiques à Beyrouth, mais aussi Tripoli au nord, Baalbek à l'est, Saïda et le Chouf plus au sud. Aujourd'hui, les écoles, les universités et les banques sont à nouveau fermées. Plusieurs manifestations sont prévues aussi devant les institutions publiques, les opérateurs téléphoniques ou les bâtiments d'électricité du Liban. Les chefs des grands partis, même d'opposition, appellent au calme après la mort d'un manifestant hier sur un barrage que l'armée tentait de disperser.
De nouvelles frappes israéliennes sur les positions du groupe armé palestinien djihad islamique ont fait au moins 8 morts ce matin, déclenchant aussitôt une nouvelle salve de roquettes tirées depuis la bande de Gaza sur l'État hébreu. Dans cette escalade armée qui ne donne pour l'heure aucun signe d'apaisement, le bilan fait désormais état de 22 morts en à peine 24 heures. En Espagne, alors que des mois durant, ils avaient fait montre de leur indéniable incapacité à se mettre d'accord, il n'aura fallu que deux petites heures seulement hier au Parti Socialiste et à la formation de gauche Podemos pour conclure ce que d'aucuns avaient fini par nommer l'impossible coalition. Toujours est-il que cette alliance, pour le moins inattendue, donc ne suffit toujours pas à dégager une majorité à la Chambre des députés. Ce qui signifie que les deux alliés vont à présent devoir batailler pour obtenir le soutien d'autres partis minoritaires avec qui ils devront aussi s'accorder sur la délicate répartition des portefeuilles ministériels. En clair, rien ne dit pour l'instant que ce pré-accord conduira à la formation d'un gouvernement stable. Plutôt que l'Espagne, justement, laquelle faisait partie des prétendants. Au même titre, d'ailleurs, que la France ou la Belgique, le leader mondial de la voiture électrique, Tesla, a finalement choisi de construire sa première usine européenne en Allemagne, à côté de Berlin. L'ouverture prévue en 2021 a été annoncée officiellement par son patron, Elon Musk, et constitue donc d'ores et déjà un coup de maître pour l'Américain au moment même où l'industrie automobile allemande, embourbée dans le scandale du diesel, perd de sa superbe. Les explications à Berlin de David Philippot.
C'est une annonce surprise faite sous les acclamations lors d'une remise de prix dans la capitale allemande. Le lauréat du Volant d'Or, Elon Musk, a annoncé que cette méga-usine produira des modèles Y et 3, des moteurs et des batteries électriques. La presse berlinoise évoque un investissement d'1 milliard d'euros et la création de 7000 emplois. Cette usine sera construite dans la grande banlieue au sud-est de la capitale, tout près de l'aéroport international encore en construction. Parallèlement, un centre d'ingénierie et de design sera créé dans Berlin, dont l'offre culturelle a pesé dans la balance, a expliqué le chef de Tesla pour justifier son choix, ainsi que, je cite, la qualité de l'ingénierie allemande. Un choix stratégique également, au moment où l'industrie automobile allemande peine à prendre le virage de l'électrique, loin derrière ses concurrents américains et asiatiques. BMW et Volkswagen, qui continuent de miser sur les moteurs à combustion, ne pointent qu'aux 6e et 7e places du classement mondial des ventes. Cette attaque frontale intervient une semaine après l'annonce par Angela Merkel d'un grand plan en faveur de l'électrique. La chancelière promet 1 million de bornes de rechange d'ici 2030 sur tout le territoire et la prime à l'achat des modèles de base sera portée à 6 000 euros.
Il emporte avec lui tout un pan de l'histoire du sport, héros populaire par excellence, mais aussi incarnation de l'éternel, selon la légende du cyclisme français. Raymond Poulidor est décédé ce matin. Il était âgé de 83 ans. On termine avec un mot de météo partout. L'après-midi sera marqué par un temps d'automne, le plus souvent gris, avec quelques éclaircies temporaires et l'arrivée d'une nouvelle perturbation sur le Finistère. Quant aux températures, elles afficheront entre 4 et 18 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.